Nous allons nous tourner dans le livre des Rois, au chapitre 9. Nous avons vu la semaine dernière comment David avait mené à bien le projet de son père, David, de construire un temple à l'Éternel. Et on avait vu de quelle façon magnifique ce temple avait été construit et inauguré ou dédié au Seigneur. Le Seigneur avait honoré de sa présence par la gloire de sa présence, la Shekinah, la gloire, la lumière, cette célébration. Et on avait vu que le peuple était dans la joie de voir comment Dieu bénissait le projet de ce temple et de leur engagement à l'aimer, à le servir. Et il est dit à la fin du verset 8, « Ils se réjouissaient, le cœur content de tout le bien que l'Éternel avait fait à son serviteur David et à Israël, son peuple. » Voilà la joie du croyant. Très important. Si pour vous la foi en Christ consiste à tirer la tête, à tirer la tronche, comme on dit poliment, parce que c'est si difficile, vous plaignez tout le temps, vous dites « ah oui ». Et certains malheureusement ont tendance à faire ça, dire « c'est un grand sacrifice que d'être chrétien ». Si c'est le cas, c'est que vous n'avez pas vraiment rencontré le Seigneur. Parce que lorsqu'on le rencontre, on a la joie, il y a en sa présence la joie et l'allégresse, dit le psalmiste, et c'est bien vrai. Voilà, nous allons prier avant d'entamer l'étude du chapitre 9 et 10. Seigneur, merci pour ta parole. Merci Seigneur qu'elle est, la vérité, que l'archéologie, l'histoire sont toujours à la traîne et finissent par corroborer, par vérifier, par valider ce que nous pouvons y lire, Seigneur, et nous te remercions de cette confirmation par la science, par l'archéologie, par l'histoire, Seigneur, que ta parole, c'est pas une fable, c'est pas une jolie légende, Seigneur, c'est la vérité. Et Seigneur, tu t'intéresses tellement à nous que tu l'as préservée, cette parole, que nous l'avons aujourd'hui en notre possession, que nous pouvons la lire, nous pouvons la méditer, la prendre par cœur, et surtout, Seigneur, nous pouvons la mettre en pratique dans nos vies. Ta parole nous dit que c'est là le secret d'une vie non vécue en vain, une vie qui n'est pas gâchée, c'est une vie qui est inspirée, qui suit ta parole, Seigneur. Aide-nous à retirer les leçons que tu as confiées par ton Esprit Saint à ceux qui l'ont écrite, cette Bible, Seigneur, pour nous mettre en garde, pour nous encourager, pour nous préparer à toute œuvre bonne, pour nous reprendre aussi, comme tu l'indiques dans 2 Timothée 3:16, Seigneur. On prie vraiment que tu sois glorifié dans nos vies par notre fidélité à lire, connaître et vivre ta parole, Seigneur, et à la répandre aussi. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Salomon vient de terminer le temple, la construction du temple. Le temple a été inauguré, c'est la joie. Et souvent, avec ces grands projets qu'on mène à bien, le moment le plus difficile, c'est pas pendant le travail. Je me souviens lorsqu'on a aménagé ces locaux. Je devrais mettre en ligne quelques-unes des photos qu'on a qui montraient le local auparavant. On a commencé à travailler un dimanche après-midi avec Seb et Eli. On a démonté des planches en bois qui retenaient le mur qui tombait tout autour de cette pièce. Et on a investi beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent par la fois, parce qu'à l'époque on louait les locaux et on a investi près de 50 000 euros. On ne savait pas comment on avait obtenu 50 000 euros de dons, de personnes qui avaient à cœur notre projet. Et puis C'est vrai que lorsqu'on a terminé le projet, d'un seul coup, il y a une baisse de, il n'y a plus l'adrénaline pour continuer. Et là, on est dans un moment très vulnérable. Est-ce que vous l'avez déjà ressenti, ça? Vous pouvez faire quelque chose pour le Seigneur, vous pouvez faire de l'évangélisation, puis vous vous retrouvez tout seul chez vous, il n'y a plus la dynamique qui vous porte. Et c'est là, quelque part, la minute de vérité. Est-ce que vous allez rester fidèle au Seigneur ou est-ce que vous allez vous laissez tenter par les attraits du péché pour satisfaire la chair. Et c'est souvent là le vrai test. Quand tout le monde travaille sur un projet pour le Seigneur, en général, c'est quelque part, c'est facile de se joindre au mouvement. Et c'est peut-être un des reproches que nous avons pu faire à la vie chrétienne aux États-Unis, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui vous soutiennent. Vous pouvez aller dans des supermarchés chrétiens où il y a des tonnes de livres. Vous branchez vous mettez la radio et vous avez le choix entre 50 ou j'exagère peut-être, mais une dizaine de programmes chrétiens. Vous avez la télévision, il n'y a pas toujours des bons programmes à la télévision, les télévangélistes sont pas les meilleurs, mais il y a plein de sujets. Vous avez des radios dédiées uniquement à la musique chrétienne. Et quand on arrive de cet endroit et qu'on se retrouve en France, on se dit « Ouh là là, c'est difficile ». Mais quelque part, c'est là que la vérité de votre relation avec Christ se découvre. Est-ce que vous êtes porté par la vague, par l'enthousiasme, par un projet, ou est-ce que votre relation elle est réelle, elle est personnelle, elle est intime avec le Seigneur ? Et souvent, c'est bon de prendre des temps un peu en dehors de cet engouement. Alors, je vous conseille pas de vous éloigner de l'Église, mais de prendre des temps de solitude dans votre relation avec Dieu. Et on va voir que c'est un peu ce qui a manqué à Salomon, parce que là, il est arrivé au fait de sa gloire. Et on va voir dans les chapitres 9 et 10 la prospérité que Dieu avait donné à Salomon, qui était mondialement connu, et aujourd'hui encore, on parle de riche comme Crésus, mais on parle aussi des richesses du roi Salomon. On va voir cela en lisant ensemble à partir du verset 1, chapitre 9, si vous le voulez bien. Lorsque Salomon eut achevé de bâtir la maison de l'Éternel, la maison du roi et tout ce qu'il avait fait, tout ce qu'il avait désiré faire selon son bon plaisir, l'Éternel apparut à Salomon une seconde fois comme il lui était apparu à Gabaon. Entre parenthèses, en regardant les dates qui se trouvent dans les chapitres précédents, ça fait déjà 20 ans que le Seigneur avait parlé à Salomon en lui demandant de lui dire ce qu'il désirait le plus et qu'il allait lui accorder. Et on a vu la réponse de Salomon, c'était, il voulait un outil pour servir Dieu. Il voulait la sagesse. C'est une réponse qui a plu à l'Éternel, qui lui a donné une sagesse sans précédent. Ni depuis, ni avant, n'y a-t-il eu un homme avec autant de sagesse théorique. C'est lui qui a écrit beaucoup des proverbes que nous avons, qui a écrit des livres comme l'Ecclésiaste, qui donne une vraie philosophie sur la vie. Et on avait remarqué au passage que c'était une bonne réponse, mais c'était peut-être pas la meilleure réponse. Que la réponse que son père David aurait donnée aurait été sans doute différente, en disant que c'est pas tant ce que tu peux me donner, ce que je veux, c'est toi. Est-ce que ça, c'est votre prière? Est-ce que lorsque vous approchez de Dieu, vous voulez de l'aide pour l'examen? Vous voulez de l'aide pour trouver le conjoint idéal? De l'aide pour vos affaires financières? De l'aide pour votre santé? Ou est-ce que vous êtes simplement prêt à oublier toutes ces choses pour simplement l'avoir, lui, dans une relation d'intimité et d'amour et de présence réelle? L'Éternel répond, lui dit, j'ai écouté ta prière et la supplication que tu m'as adressée. On peut penser que c'est la prière qui avait été faite qui est rapportée au chapitre 8, lorsque Salomon demande à Dieu de bien accomplir sa promesse de donner à Israël un successeur sur le temple de David, sur le trône de David, pardon. Et il consacre cette maison, l'Éternel dit, « Je consacre cette maison que tu as bâtie pour y mettre à jamais mon nom, et j'y aurai toujours mes yeux et mon cœur. » Quelle belle promesse. « Et toi, si tu marches en ma présence, comme a marché ton père David, avec intégrité de cœur et avec droiture, pour agir d'après tout ce que je t'ai ordonné, si tu observes mes prescriptions et mes ordonnances, j'établirai pour toujours ton trône royal en Israël, comme je l'ai déclaré à ton père David, en disant, tu ne manqueras pas d'un successeur sur le trône d'Israël. Mais si vous vous détournez délibérément de moi, vous et vos fils, si vous n'observez pas mes commandements et mes prescriptions que j'ai placées devant vous, si vous allez rendre un culte à d'autres dieux et vous prosterner devant eux, je retrancherai Israël de l'étendue du territoire que je lui ai donné. Je rejetterai loin de moi la maison que j'ai consacrée à mon nom, et Israël sera un sujet de fable et d'opprobre parmi tous les peuples. Et si haut placé qu'ait été cette maison, quiconque passera près d'elle sera dans l'étonnement et sifflera. On dira, pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité ce pays et cette maison ? Et l'on répondra, parce qu'ils ont abandonné l'Éternel, leur Dieu, qui a fait sortir leur père du pays d'Égypte, parce qu'ils se sont attachés à d'autres dieux, se sont prosternés devant eux et leur ont rendu un culte. Voilà pourquoi l'Éternel a fait venir sur eux tout ce malheur. Salomon entend Dieu pour la deuxième fois en 20 ans. Est-ce que vous avez déjà entendu Dieu vous parler? J'ai jamais vraiment entendu le Seigneur me parler de façon audible. Je ne peux pas vous dire comment est sa voix, mais il y a des fois où j'ai vraiment su que c'est lui qui me disait « ça c'est bien, ça c'est pas bien, fais ça et ne fais pas ça ». Ce n'est pas toujours facile d'avoir cette direction. Mais il y a des fois où on a cette intime conviction. Et c'est toujours une bénédiction. La chose est que pour entendre Dieu, il faut être à l'écoute. Est-ce que vous prenez le temps d'écouter Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans un monde, en France, les personnes en moyenne passent 8h30 par jour avec les médias. Internet, Facebook, la télé, la radio, les journaux, la pub dans la rue, la pub partout. 8h30. Les Français passent en moyenne 3h30 devant leur télévision. Et on essaye de passer 5 minutes peut-être à lire la Bible le matin ou le soir. Si vous passez 5 minutes à lire la Bible et 8 heures à être gavé par les médias, ça fait 96 fois plus de temps passé dans les médias qu'avec Dieu. Est-ce étonnant que Dieu vous paraisse lointain et un peu imaginaire si vous ne passez qu'un centième du temps où vous êtes à l'écoute de quelque chose pour être à l'écoute de Dieu? Et pour ceux qui me connaissent, ceux qui sont sur Facebook, vous savez que je passe trop de temps sur Facebook. C'est vrai qu'il y a des joies sur Facebook, le fait de rester en contact avec des amis, de retrouver des amis. Ce matin, j'ai été réveillé par un petit bip. J'ai retrouvé la trace d'amis que je n'avais pas vue depuis 25 ans. Bon, mais la question c'est, qu'est-ce que vous faites de votre temps vis-à-vis de Dieu? Et ça c'est une question que personnellement on doit tous se poser, moi le premier. Est-ce que je prends du temps dans le silence? Est-ce que je prends la Bible? Ou est-ce que je pars prier, marcher? C'est une bonne idée pour prier. Nous vivons dans une belle région. Vous pouvez aller vous promener sur la Prom le matin de bonne heure. Vous pouvez monter dans les collines en priant. Si vous endormez en priant, marchez en priant. Si vous allez arrêter de dormir en priant. On a du mal à dormir quand on marche. Mais est-ce que nous sommes dans une position où Dieu peut nous parler? Alors c'est vrai que Dieu, il a des moyens d'attirer notre attention. Et souvent ça va être la difficulté, ça va être la tragédie, ça va être la maladie, ça va être la banqueroute, ça va être un problème. Et Dieu merci, il nous reprend de cette façon. Mais est-ce que ce ne serait pas mieux de ne pas avoir à passer par ces rappels à l'ordre en appréciant la proximité, la présence du Seigneur, en prenant votre Bible, en la lisant dans un coin tranquille, en faisant une habitude, un lieu, un endroit, un moment doit être un lieu de rencontre avec le Seigneur. Salomon, sans vouloir préjuger, c'est pas vraiment spécifié, mais on peut penser que ce projet de construction du temple, ça a pris toute son énergie, tout son temps. C'est bien, c'était pour construire le temple de Dieu. C'est bien de construire une église, c'est bien d'implanter une nouvelle église. Pas si c'est au prix de votre propre relation avec Dieu. Et ça, pour les gens qui sont dans le ministère à temps plein, c'est souvent un danger sournois, parce qu'on se dit, bon, mais de toute façon, je travaille pour Dieu à temps plein, j'ai pas besoin de passer du temps avec lui, et toute la journée, on envoie des mémos l'un à l'autre. Mais Dieu veut une relation plus qu'une relation, passer à prier pour les finances de l'Église, passer à prier pour l'organisation de telle ou telle manifestation. Dieu veut votre cœur. Dieu veut communier avec vous. Et lorsque vous communiez avec lui, vous avez le plus grand des trésors. Quelles que soient les circonstances, vous apprenez à cultiver cette relation et vous n'avez plus à avoir peur de la vie, des problèmes, de la maladie. Même si ces choses, on en a toujours peur, on préférait que tout aille bien. Mais si on a ce trésor, c'est comme la quille d'un bateau. Vous savez, cette quille qui pèse presque des fois plus lourd que le reste du bateau, mais qui fait que le bateau, pas tout à fait, sinon il coulerait, mais qui l'équilibre et qui fait que dans les tempêtes, le bateau peut conserver un cap. Si vous avez cette relation avec Dieu, alors Satan ne peut rien contre vous. Les circonstances ne peuvent rien contre vous. Ce qui est intéressant, c'est de voir que l'Éternel répète un peu ce qu'il avait déjà dit à Salomon en lui disant « Si tu marches avec moi, pas de problème. Mais si tu te détournes d'avec moi, et sachez que se détourner du vrai Dieu, ça veut dire se tourner vers de faux dieux. » Encore une fois, je m'en excuse auprès de mes amis suisses, il n'y a pas de position de neutralité, on ne peut pas être suisse dans la foi. On sait qu'il y a une merveilleuse foi en Suisse, mais je veux dire, on ne peut pas dire « je ne suis pas pour, je ne suis pas contre ». Non, si vous n'êtes pas pour Dieu, vous êtes pour d'autres dieux, vous êtes contre le vrai Dieu. Et Salomon, il entend ça pour la deuxième fois, sans doute, on peut se demander pourquoi est-ce qu'il répète. Parce que Dieu a déjà vu des problèmes potentiels dans Salomon. Lorsque Dieu vous interpelle à plusieurs reprises sur un sujet, peut-être qu'il y a des choses qu'il continue de vous dire, de vous rappeler, ne les ignorez pas. S'il prend le temps de s'adresser à vous à ces sujets et qu'il vous les rappelle, c'est parce qu'il y a de votre part une réponse, il y a une action à prendre en réponse à ces signaux de Dieu. Et lui dit, si tu marches, si tu observes mes prescriptions, mes ordonnances, alors j'établirai pour toujours ton trône royal. Il y aura toujours un roi en Israël. Mais si tu te détournes de moi, c'est une promesse conditionnelle. C'est l'ancienne alliance. Aujourd'hui, nous allons prendre la Sainte Cène, du voulant, et c'est une célébration de la nouvelle alliance. Ça veut dire que notre relation de justice avec Dieu, elle ne dépend plus de notre réponse au commandement, elle dépend du sacrifice parfait accompli à la croix par le Fils de Dieu Jésus-Christ. La seule condition, c'est de recevoir ce cadeau, de recevoir ce sacrifice comme étant le sacrifice qui nous sauve et de faire de Jésus notre Maître, notre Seigneur et notre Sauveur. Alors vous dites peut-être, alors maintenant dans la Nouvelle Alliance on peut faire n'importe quoi. Non, parce que lorsqu'on accepte, et on l'a vu en étudiant Romains, lorsqu'on accepte cette déclaration de Dieu que nous sommes justes à ses yeux, il n'en reste pas là, il vient nous transformer. Il va nous sanctifier. Et donc c'est lui qui prend en charge la partie qui devait être la condition pour que dans l'ancienne alliance, les hommes et femmes, qu'Israël soit béni. C'est un merveilleux progrès. C'est pas quelque chose à prendre à la légère en disant « bon, ben maintenant il n'y a plus rien à faire ». Là, il nous rappelle encore, et l'histoire d'Israël nous rappelle que si nous ne suivons pas les préceptes de Dieu, nous ne serons pas bénis par Dieu. Si aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, nous ne les suivons pas, c'est que Dieu n'est pas vraiment notre Seigneur, n'est pas notre Sauveur. Nous avons peut-être professé des paroles, mais il n'a pas fait sa place dans notre cœur, nous n'avons pas vraiment accepté, parce que sinon, nous serions transformés sans pouvoir y résister. Et là, la punition pour ne pas suivre Dieu et se détourner vers des faux dieux, c'est le fait qu'il y aura le territoire, la gloire d'Israël sera enlevée et Israël deviendra un sujet de fable et d'opprobre parmi tous les peuples. Aujourd'hui, dans notre langage télévisuel, on dirait Israël. Les guignols vont s'en moquer. Il n'y aura plus de respect, on dira « Pourquoi ça leur est arrivé ?» Et Dieu s'assure que ce n'est pas parce qu'on dira « parce que Dieu n'était pas capable de les protéger, mais parce qu'ils ont abandonné Dieu. » Sachez que des fois nous avons l'impression que nous pouvons faire du tort à Dieu. Bien sûr, dans un premier temps, nous pouvons faire beaucoup de mal à la foi, à l'avancement de l'Évangile par nos péchés, mais sachez que Dieu aura toujours le dernier mot. Et que tout ne dépend pas de vous, mais ce n'est pas une raison pour dire « bon ben, faisons n'importe quoi ». Au contraire, contribuons à la gloire et au renom de l'Éternel. Salomon a continué au bout de 20 ans, verset 10, Salomon avait bâti les deux maisons, la maison de l'Éternel et la maison du roi. Alors, comme Hiram, roi de Tyr, avait fourni à Salomon du bois de cèdre, du bois de cyprès et de l'or autant qu'il en avait désiré, le roi Salomon donna à Hiram 20 villes dans le pays de Galilée. Hiram sortit de Tyr pour voir les villes que lui donnait Salomon, mais elles ne lui plurent pas. Et il dit, « Quelles sont ces villes que tu m'as données là, mon frère ?» Et il les appela « Pays de Kaboul », nom qu'elles ont conservé jusqu'à aujourd'hui. Kaboul, c'était un terme de mépris qui voulait dire « bon à rien, bon à rien ». Hiram avait envoyé au roi 120 talents d'or. Alors là, encore une fois, les estimations sont toujours un peu hypothétiques. Mais on sait que ça, un talent, ça représentait 34 kilos. Donc, au prix de l'or aujourd'hui, un kilo d'or sur le cours, hier soir, j'ai regardé, 34 000 euros le kilo. Donc un talent, ça représente 1 156 000 euros. En gros, sachez qu'un talent d'or, c'est 1 million d'euros. Pour avoir un peu une idée des sommes et de la richesse qui était impliquée dans ces échanges. Hiram avait envoyé 120, 130, 100, 140 millions d'euros, en plus de tout le bois de cyprès, du bois de cèdre qui avait servi, et l'or qui avait servi à la construction du temple et de la maison du roi. Et là, on ne sait pas si c'est un des premiers signes qui montre que Salomon n'était pas l'homme intègre qu'il était, mais apparemment, il a un peu roulé l'ami de son papa Hiram en lui disant « Je te donne 20 villes », c'était simplement peut-être des hameaux dans la Galilée, qui est pourtant une très belle région, une région riche, agriculture et très beau climat. Mais Hiram n'a pas apprécié le cadeau, il a dit « Ces villes, là, tu m'as un peu roulé, là », mais il lui a quand même donné l'argent, 120 talents d'or. Et voici, verset 15, ce qui concerne les hommes de corvée que leva le roi Salomon pour bâtir la maison de l'Éternel et sa propre maison, le Milo et la muraille de Jérusalem, Hatsor, Megiddo et Gezer. Le Milo, on pense que c'était une terrasse ou une tour de garde autour du temple, la muraille de Jérusalem. Il l'a fait construire, on peut la visiter aujourd'hui, on peut voir les 8 portes qui l'entourent, dont une est fermée, qui ne sera ouverte que lorsque le Messie reviendra, selon la croyance des Juifs. 3 villes stratégiquement placées, Hatsor, Megiddo et Gezer. On passe à Megiddo quand on va en Israël et on voit qu'elle contrôle toute la vallée de Jisréel, la grande vallée où il y a déjà eu des combats et où se déroulera la bataille d'Armageddon, la montagne de Megiddo, à la fin des temps. Et encore une fois, ce qui est formidable, c'est que voir que tous ces noms, tous ces endroits, tous ces lieux, on en trouve des vestiges. Ce n'est pas des jolies fables, des légendes, des mythes, c'est de l'histoire. Et Salomon avait utilisé beaucoup des Cananéens, on va le voir un peu plus loin, on va continuer à lire. Voici donc ce qui concerne les hommes de corvée que leva le roi Salomon pour bâtir la maison de l'Éternel et sa propre maison, le Milo, la muraille de Jérusalem, Hatsor, Megiddo et Gezer. Le pharaon, roi d'Égypte, était monté pour s'emparer de Gezer, l'avait incendié et avait tué les Cananéens qui habitaient dans la ville. Puis il l'avait donné pour dot à sa fille, femme de Salomon. Salomon bâtit Gezer, Beth-Horon, la basse, Baalat et Tadmor au désordre dans le pays. Toutes les villes qui servaient d'entrepôt et qui étaient à Salomon, les villes pour les chars, les villes pour la cavalerie et tout ce que Salomon avait bâti selon son plaisir à Jérusalem, au Liban et dans tout le pays qu'il dominait, tout le peuple qui était resté des Amoréens, des Hittites, des Phéréziens, les Héviens et des Yébousiens ne faisait point partie des Israélites. Leurs fils qui étaient restés après eux dans le pays que les Israélites n'avaient pas pu vouer à l'interdire, c'est-à-dire éliminer, Salomon les leva comme esclaves de corvée, ce qu'ils ont été jusqu'à aujourd'hui. Mais Salomon n'imposa l'esclavage à personne parmi les Israélites, car ils étaient des hommes de guerre, ses serviteurs, ses chefs, ses écuyers, les chefs de ses chars et de sa cavalerie. Les chefs préposés sur les travaux de Salomon étaient au nombre de 550 qui exerçaient leur autorité sur le peuple qui exécutait les travaux. La fille du pharaon monta de la cité de David dans sa maison, celle que Salomon lui avait construite. Ce fut alors qu'il bâtit le Milo. Salomon offrit 3 fois dans l'année des holocaustes et des sacrifices de communion sur l'autel qu'il avait bâti à l'Éternel. Et il brûla des parfums sur celui qui était devant l'Éternel. Il acheva la maison. Le roi Salomon construisit des navires à Etzion-Guéber, près d'Eliath, sur les bords de la mer des gens, dans le pays d'Édom. Hiram envoya sur ses navires, auprès des serviteurs de Salomon, ses propres serviteurs, des matelots connaissant la mer, et ils allèrent à Ophir et ils y prirent de l'or, 450 millions d'euros, qu'ils apportèrent au roi Salomon. On voit comment Salomon, là aussi, avait pas complètement obéi à Dieu. Dieu leur demandait d'exclure les peuples cananéens qui étaient des adorateurs de faux dieux. On en reparlera plus loin. On parle toujours du dieu sanguinaire qui vouait à l'interdit des peuplades entières. Et comme on le dit à chaque fois, ça peut paraître injuste, mais Dieu qui connaît le présent, le futur, comme le passé, voit que ces personnes ne vont jamais venir à l'écouter et à vivre des vies dignes. Il faut se rappeler que ces peuplades sacrifiaient leurs enfants, qui avaient une immoralité et une méchanceté proverbiale parmi tous ces peuples. Et les ancêtres de Salomon n'avaient jamais vraiment obéi au commandement de l'Éternel. Ils voyaient toujours dans ces peuples de la main-d'œuvre à bon marché, ce que Salomon continue de faire. Les Israélites, eux, continuaient de servir de cadre à toutes ces bâtisseurs et tous ces projets, ces grands projets, ces grandes entreprises de Salomon. On voit que Salomon continuait d'offrir des sacrifices. Il offrait 3 fois dans l'année. On peut penser que c'était à l'époque des 3 grandes fêtes, de la fête des tabernacles, la fête de la Pentecôte et la fête du grand pardon, probablement. Il brûlait des parfums. De l'extérieur, on pouvait dire « Oh, quel homme spirituel !» Mais en même temps, il n'était pas proche du Seigneur. On le sait par tout le reste de l'histoire. Il avait notamment, et on le verra encore par la suite de façon plus flagrante, désobéi au commandement de Dieu que Dieu avait prévu dès le Deutéronome. Si vous regardez avec moi Deutéronome 17, à partir du verset 14. Encore une fois, Dieu connaît le futur, aussi bien que le passé ou le présent. Et bien que ce n'ait pas été sa volonté qu'il y ait un roi au-dessus de son peuple, il savait que les Israélites allaient dire « Je veux, verset 14, je veux établir sur moi un roi comme toutes les nations qui m'entourent. » Et donc Dieu avait consenti à ce qu'ils établissent un roi sur eux. Vous vous souvenez que le premier roi, ça a été le roi Saül, suivi de David et maintenant Salomon. Mais il y avait 3 prescriptions que Dieu avait déjà prévues. Dieu voulait qu'ils respectent. Verset 16, « Qu'il n'ait pas un grand nombre de chevaux et qu'il ne fasse pas retourner le peuple en Égypte pour avoir beaucoup de chevaux, car l'Éternel vous a dit, vous ne retournerez plus par ce chemin. » Il ne devait pas aller en Égypte, or c'est ce qui nous est explicitement dit. Il avait fait construire des écuries. On visite les ruines de certaines de ces écuries à Megiddo. Et il avait un grand nombre de chevaux. On en reparlera. Mais ça, c'était la première prescription qu'il avait considéré comme une prescription qui ne s'appliquait pas à lui. Verset 17, c'était qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne s'écarte pas. Combien représente un grand nombre? Je dirais 2. 2, c'est trop. Dieu a prévu dès la Genèse, dès la création de l'homme et de la femme, qu'un homme quittera son père et sa mère, et qu'il formera avec sa femme un seul couple, un homme pour chaque femme, une femme pour chaque homme, pas deux. La polygamie, c'était là aussi un péché, et on voit tous les problèmes qui ont résulté de ne pas s'en tenir à la parole de Dieu. Deux, si c'est deux, c'est trop, que penser de mille? Là, il a fait péter les compteurs. Le famaton de Salomon, il a éclaté le compteur. 700 femmes et 300 concubines, qui étaient des femmes reconnues, mais qui n'avaient pas part à l'héritage. C'était en dehors des maîtresses ou des femmes qu'il aurait pu rencontrer comme ça en boîte de nuit. 700 plus 300, 1000 femmes. Donc là, visiblement, Salomon connaissait la parole. Il l'avait même fait lire et lu. Et puis, il ne devait pas avoir une grande quantité d'argent et d'or. Et tout ce qu'on va lire encore par la suite, on a déjà lu, on a parlé de 150 millions d'euros qui étaient donnés par un roi qui l'aidait, qui subventionnait, on va revoir. Donc c'est incroyable, on dit maintenant, ça c'est un homme qui a construit un temple à Dieu, il y a des prescriptions très claires, pas trop de chevaux, il pouvait en avoir quelques-uns. Les femmes, il pouvait en avoir une. Il avait la fille du roi d'Égypte, ça aurait dû lui suffire. Elle aurait dû être d'Israël, parce qu'il n'y a pas d'alliance entre les croyants et les non-croyants. Paul nous le rappelle. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre Dieu et Bélial? Qu'est-ce que la lumière avait à faire avec les ténèbres? Il éclate les chevaux, il éclate les femmes, et il éclate l'or. Alors on a vite fait de critiquer Salomon et de lui dire « Mais qu'est-ce qui se passe dans ta vie ?» Mais rappelez-vous que la Bible, elle doit nous parler à chacun. Est-ce qu'il y a des commandements évidents, des choses claires, clairement annoncées, faciles à comprendre, que je ne respecte pas de façon aussi visible, de façon aussi étonnante. Alors souvent, c'est peut-être des choses secrètes qu'on garde en nous-mêmes. Mais est-ce qu'il y a des choses comme ça? Et on s'habitue, on se dit oui, il y a des lois, il y a des principes, il y a des péchés, c'est pas bien. Mais je vois que Dieu connaît ça, il m'a pardonné. Et puis en plus, on peut utiliser à tort la grâce. Mais que cette violation patente, évidente, inimaginable par Salomon de ses principes clairs et nets. C'est pas en lisant toute la Bible qu'on se forge une philosophie, c'est trois versets, deux versets. Attention, il y a un problème avec l'or, avec les femmes, avec la puissance. Et ce qui est curieux, c'est que ces trois problèmes, ils continuent à être les problèmes qui minent l'existence humaine. Tout ce qui ne va pas dans le monde, en général, on peut l'attribuer au cheval, à la femme, à l'or. Ou alors, pour être plus contemporain, on peut attribuer tous les problèmes de notre monde à la puissance, à la recherche de puissance. Je veux être le chef. Je vais lui montrer à ce nouvel employé que c'est moi la patronne. Au grand dictateur qui veut faire la guerre avec les pays alentours. La puissance, le désir de puissance, le cheval. C'est ce que ça représentait à l'époque. Deuxième, les femmes, le sexe. Et ça vaut dans les deux genres, les hommes comme les femmes. La sexualité pervertie par notre société. Et troisièmement, le fric, la corruption. C'est étonnant que ces principes dès le début de la Bible. Dieu nous dit, attention, et surtout vous qui êtes responsables, vous qui donnez l'exemple. Pas de montre Rolex, pas de vacances en yacht, pas de maîtresse. Et aujourd'hui encore, on voit que rien n'a changé. Et ça doit nous dire, ah, la Bible, elle est vraie. La Bible, elle sait de quoi elle parle. Parce qu'il suffit de regarder autour de nous et de voir que ces problèmes, ils sont là. Ils sont au plus profond de nous. On veut la puissance, on veut du sexe, on veut de l'argent. Et Salomon, il le savait et il a pas hésité à oublier ça. Est-ce que nous aussi, nous faisons fi de ces commandements? Est-ce que nous faisons fi de ces vérités? Puis le chapitre 10 nous parle de la visite de la reine de Saba. Saba, c'était probablement dans la région du Yémen actuel, donc c'était assez loin, c'était à probablement 2000 kilomètres. Elle vient parce qu'elle a entendu parler de ce roi qui glorifie Dieu, et elle vient lui l'éprouver par des énigmes. Chapitre 10, la reine de Saba entendit parler de la réputation de Salomon à la gloire de l'Éternel et vint l'éprouver par des énigmes. Elle arriva à Jérusalem, on ne va pas lire tout en détail, elle vient avec plein de monde, des chameaux, un grand entourage, un peu comme quand Sarkozy va rendre visite à un président de Chine, il amène les chefs d'entreprise, il amène des cadeaux, et elle vient et lui dit tout ce qu'elle avait dans le cœur. Elle avait sans doute des questions. Le fait qu'elle vienne de si loin, on peut penser qu'en fait elle était en recherche de sens à la vie. Elle était riche aussi, vu les cadeaux qu'elle amenait. Elle avait de la puissance, elle avait sans doute un mari ou plusieurs, l'histoire ne le dit pas, ou du moins dans ce texte. Et elle se posait sans doute des questions et elle voulait voir ce que Salomon avait à dire sur ces sujets. Et elle est émerveillée. On vit dans un monde où en général on exagère la réputation des choses. Là au contraire, elle dit, tout ce que je vois, c'est bien mieux que ce qu'on m'avait laissé entendre. Et puis verset 8, elle dit, heureux tes gens, heureux tes serviteurs qui te servent, qui entendent ta sagesse. Puis elle dit, béni soit l'Éternel ton Dieu qui t'a été favorable et t'a placé sur le trône d'Israël. Elle donne au roi 120 talents, alors on peut dire c'est un gentil petit cadeau, encore une fois c'est 120, 130, 150 millions d'euros, des aromates, des pierres précieuses. Le roi continue de recevoir des cadeaux du roi Hiram, de l'or d'Ophir. On ne sait pas où est Ophir. C'est dommage parce que je suis sûr qu'il y aurait plus d'un aventurier qui irait remettre en route les mines d'or de Ophir. Il y a diverses, ça va même jusqu'en Inde, certains ne savent pas trop jusqu'où aller pour limiter les recherches. Il reçoit du bois de santal, des bois précieux. Il se fait construire un temple, on va le voir. Et il donne à la reine de Saba plein de cadeaux, des présents dignes d'un roi tel que lui, puis elle retourne dans son pays. On peut se demander, le fait qu'elle ait dit « Béni soit l'Éternel ton Dieu », est-ce que ça veut dire qu'elle a été sauvée, qu'elle a été touchée par Dieu ? Apparemment, c'était simplement une façon de dire « c'est formidable ». Il n'y a rien qui nous précise qu'elle ait été impactée par Dieu. Ce qui est intéressant, c'est que Jésus va parler de cette reine. Encore une fois, c'est toujours la meilleure preuve que quelque chose a existé réellement lorsque Jésus en parle. Dans Matthieu 12, 42, il dit que la reine du Midi, parlant de la reine de Saba, se lèvera lors du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle est venue des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici qu'il y a ici plus que Salomon. Jésus, c'était le successeur de David, c'était quelqu'un qui était encore plus grand que Salomon. Et à l'époque de Jésus, il était rejeté. Et pourtant, la reine de Saba, elle avait fait ce déplacement, avait dépensé toute cette énergie pour voir Salomon. Et on peut se dire, elle a vu toute cette splendeur, elle a été émerveillée. Comment ça se fait qu'elle n'ait pas donné son cœur à Dieu, qu'elle n'ait pas dit, oui, j'accepte. Elle dit, béni soit l'Éternel, ton Dieu. Elle ne l'a pas accepté comme son propre Dieu. Ça doit nous parler aussi. Aux États-Unis et en France maintenant, il y a ce qu'on appelle le mouvement des seeker sensitive, de ceux qui sont sensibles aux gens en recherche. Et on fait tout pour que les gens du dehors se sentent à l'aise dans l'église. On ne va pas leur parler de péché, on ne va pas leur lire la Bible, on va simplement faire des sketchs, on va organiser une église très belle, on va s'occuper du parking, on va faire quelque chose de merveilleux au point de vue humain. Mais souvent, ce qui manque, c'est la vérité dans le cœur des gens. Dieu n'a pas dit à ceux-ci, tous sauront que vous êtes mes disciples parce que vous avez des belles voitures, parce que votre église est vraiment cool, on ne parle pas de péché. Non, ce qui compte, c'est l'amour des uns pour les autres. Et là, elle a été impressionnée par la richesse, par la somptuosité du temple, par tout ce qui est ce déploiement de richesses, d'argent, de choses formidables, les vêtements des prêtres, les vêtements des serviteurs. Tout était parfait, mais ça ne l'a pas touché intérieurement. Il n'y a pas eu le témoignage de l'Esprit Saint. Et là, encore une fois, on peut construire des bâtiments, on peut construire des églises super cool, on peut avoir des cafés, des restaurants, on peut avoir des crèches parfaites pour les enfants, etc. S'il n'y a pas la présence de Dieu dans l'église, ça ne va pas toucher les gens, ça ne va pas les sauver. Ça va peut-être les impressionner, mais ça ne va pas suffire. Et donc, il est dit que le poids de l'or que Salomon recevait chaque année, c'était 666. Peut-être une coïncidence, ou peut-être pour indiquer que c'est le chiffre de l'homme qui désigne l'Antichrist dans l'Apocalypse. Alors, c'est peut-être une coïncidence, mais c'est peut-être aussi le signe que l'Antéchrist, ça ne sera pas nécessairement quelqu'un de diabolique dès le départ, ça sera peut-être quelqu'un de bien qui aura, comme Salomon, progressivement se sera éloigné de Dieu. Et là, dans la fin du chapitre 11, on voit qu'il fait construire des boucliers d'or et il emploie des cycles. Un cycle, ça représente 400 euros. Des boucliers à 600 fois 400 euros, 24 000, on s'y perd. Il avait fait un trône et il est dit que, en fait, l'argent, on n'en faisait plus qu'à parce qu'il y avait tellement d'or, tout était en or dans son royaume. Le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre par la richesse et par la sagesse. Tout le monde voulait le rencontrer. Mais il continue, verset 26, à rassembler des chevaux, des cavaliers, 12 000 cavaliers, 1 400 chars. Et il allait chercher des chevaux en Égypte. Si vous aimez dépenser de l'argent, imaginez qu'on vous donne de l'argent et que vous puissiez dépenser 10 000 euros par jour. La somme que des 666 talents qu'il recevait annuellement, en dépensant 10 000 euros par jour, vous pourriez durer pendant 200 ans, jour et nuit, jour après jour, je veux dire, 365 jours par an. 100 000 euros, ça vous permet de durer 20 ans, tous les jours. C'est des sommes faramineuses. Et pourtant, on va voir au chapitre 11 que Salomon, malgré cette prospérité, n'a pas donné la place qui revenait au Seigneur. Et encore une fois, on peut pointer du doigt Salomon. Qu'est-ce que nous faisons des richesses que Dieu nous donne? Des richesses spirituelles, est-ce que nous cherchons les choses matérielles? Est-ce que nous méprisons ses commandements? Ou comme David, on verra dans le chapitre 11 que Dieu parle toujours de David comme un homme selon son cœur. David n'était pas parfait. Mais il avait à cœur de se mettre en règle devant Dieu. Il avait un cœur. Est-ce que vous avez un cœur pour Dieu ou est-ce que vous voulez simplement les bénéfices que Dieu peut vous donner ?